Les par actualité.
Voici vos par actualité. 25 avril 2017, François Brodeur au micro avec vous pour la prochaine demi-heure en remplacement de Clotilde Seille. En manchette aujourd'hui, il sera beaucoup question d'éducation puisque Patrick Lagacé s'est intéressé dans la question dans la question dans la presse de ce jour. Oui, je déparle aujourd'hui. Question aussi d'enfants autistes qui sont en quelque sorte enfermés dans une classe sans fenêtre. On vous parle du nouveau symbole pour les personnes handicapées qui est réclamé en Ontario. Deux entrevues aussi, Hugo Girard tout à l'heure. Et en fin d'émission, des représentantes du Phare Enfant Famille vont nous parler de l'organisme, de sa mission, mais aussi de ses activités. Et tout ça, ça commence dans quelques instants. Oui, je vous le disais tout à l'heure, Patrick Lagacé, dans la presse d'aujourd'hui, a écrit une chronique sur l'accès à l'éducation et je vous en donne lecture. Maquillage. C'est l'histoire d'une fillette qui ne s'appelle pas vraiment Jeanne, mais que nous appellerons ainsi pour lui éviter des ennuis dans un futur rapproché. Jeanne a un trouble d'apprentissage sévère. Son retard scolaire est tout aussi sévère. Jeanne est suivie par une pléthore de professionnels. Son orthopédagogue, que nous appellerons Philippe, a fait une demande à la commission scolaire pour que Jeanne soit placée dans une classe spéciale, une classe adaptée. Demande refusée. Philippe est étonné, pour ne pas dire ahuri. Le trouble d'apprentissage de Jeanne est dûment diagnostiqué. Si une élève devait être dans une classe adaptée, c'est bien Jeanne. Philippe insiste, appelle à la commission scolaire. C'est lui qui raconte l'échange. « Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi Jeanne a été refusée dans la classe spéciale. »« Cette élève est beaucoup trop forte. »« Pardon? »« Elle a 55 % au bulletin. »« Elle est trop forte. » »« Vous savez bien que le bulletin administratif ne nous permet pas de mettre plus bas que 55 %. »« Elle est en échec. »« Échec signifie ne réussit pas, même avec aide. »« Ce n'est écrit nulle part. »« Je vois 55 % au bulletin. » J'appuie sur pause ici pour un peu de contexte. Les écoles du Québec maquillent les notes de façon régulière pour toutes sortes de raisons. Certaines écoles et certaines commissions scolaires ne permettent pas de donner 30 ou 45 % à un élève, même si c'est la note qu'il mériterait. Le logiciel d'entrée des notes fixe bien souvent une barre sous laquelle on ne peut même pas descendre. J'ai plusieurs témoignages en ce sens. Fin de la pause contexte, retour à l'échange entre Philippe et la commission scolaire. Cette élève a déjà doublé. Elle a 3 rapports neurologiques qui confirment sa lenteur intellectuelle et sa dysphasie. Elle est au suivi privé par un orthopédagogue, une orthophoniste, une ergothérapeute. Elle n'a qu'une dysphasie modérée. Ça prend sévère dans les critères pour l'admettre en classe spéciale. Soit. Elle a aussi un retard global de développement, 2 ans de retard en mathématiques et en français. Elle ne suit rien en classe. Elle est vue par des spécialistes 10 heures par semaine. Rien à faire. Philippe était coincé dans un dialogue de sourds dont les codes relèvent de la mauvaise foi. De toute évidence, ici, la commission scolaire ne veut tout simplement pas admettre Jeanne dans une classe spéciale. Pourquoi? Parce que ces classes coûtent cher. Plus d'élèves admis dans ces classes égale plus de coûts. Alors, les commissions scolaires font avec les classes spéciales ce qu'elles font pour l'accès aux services de professionnels comme des orthophonistes ou des orthopédagogues pour les élèves en difficulté dans les classes ordinaires. Elles font une lecture étroite des besoins de ces élèves pour refuser le service au plus grand nombre. C'est épouvantable d'un point de vue social parce que les jeunes du Québec vivent de la détresse tout au long de leur parcours scolaire, en plus d'être sur la voie rapide vers le décrochage. C'est également nocif pour les élèves qui ne sont pas en difficulté. L'attention des profs est évidemment accaparée par les élèves comme Jeanne. Mais d'un point de vue bureaucratique, c'est génial. À 55 % ces élèves en difficulté sont toujours très près de la réussite, fixée à 60. Et souvent, justement, on les fait passer. Pourquoi? Pour plein de raisons. Parce que les profs ne veulent pas se faire emmerder par leur direction d'école. Parce que les parents vont gueuler si l'enfant ne passe pas. Parce que la commission scolaire ne veut pas avoir un taux de diplomation moins reluisant que sa voisine. Je vous parle des écoles, mais ce genre de maquillage bureaucratique se pratique partout, tout le temps. C'est absurde, c'est malhonnête et c'est même un peu soviétique comme approche. Mais qu'importe. La réalité a été maquillée et la bureaucratie a sauvé son honneur. En plus, le ministre ne lui tapera pas dessus. Il pourra dire que les services sont donnés et bien donnés. « Tenez, déclarera-t-il aux journalistes, j'ai même des statistiques pour vous le prouver. » Et Jeanne, elle, dans tout ça, on s'en fout royalement de Jeanne. Même qu'elle pourrait se forcer un peu, elle est si proche de 60%. Deuxième journée du défi sportif Altergo. Et pour nous en parler, on a en ligne rien de moins qu'un homme fort du Québec, Hugo Girard. Monsieur Girard, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va super bien.
Bon, alors comment ça se passe au défi sportif?
Ah, ça se passe très bien. Écoutez, aujourd'hui, on a 1500 athlètes. La haie d'honneur, c'était vraiment impressionnant. Le lancement du défi au matin avec tout le monde qui sont là, les enfants, le sourire, l'être là dans les yeux, je dois dire, c'est impressionnant.
Oui, on m'a souvent raconté, ben, les gens qui y ont assisté, que c'est quelque chose qui vous remplit le cœur pour très longtemps d'espoir et finalement une espèce de sourire accroché au coin du visage.
Bien, je vous dirais que c'est une façon aussi de... ça remet les pendules à l'heure puis ça nous remet les deux pieds sur terre sur quoi sont les vraies valeurs. Puis de voir les jeunes se dépasser, c'est vraiment là, c'est une source de motivation. Mm-hmm. C'est motivateur, ils sont contents. Puis, peu importe la position, là, c'est vraiment lorsqu'on arrive, qu'on parle de sport, puis on parle de participation, au-delà de la compétition, c'est ça que je ressens. Puis je dois le dire, moi, je trouve ça vraiment enrichissant.
Oui, qu'est-ce qui a pu vous convaincre de vous joindre à cette organisation-là? Parce qu'il y en a quand même beaucoup des organismes qui sollicitent des porte-parole. Alors, pourquoi Altergo?
Écoutez, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand j'ai pris connaissance de l'événement et son ampleur, je ne comprenais pas pourquoi on connaissait pas l'événement plus que ça. Écoutez, cette année, il y a 6700 athlètes qui participent à ce défi-là.
Mm-hmm.
Là, tu te demandes pourquoi on n'en entend pas parler? Comment ça que c'est si peu connu? Puis moi, ben, ça m'a touché parce que oui, on parle de sport. Ça m'a touché aussi parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais différent de par ma corpulence. Donc, je pouvais vraiment, là, moi, m'identifier au genre de regard, au genre de commentaires des fois qu'on entend lorsqu'on est différent. Donc, mm-hmm. C'est une façon pour moi de redonner parce que la vie a quand même été bonne pour moi. J'ai travaillé fort, mais dans la vie, on travaille tout fort. Puis je me dis, si d'une manière, mon implication aussi avec humilité, là, parce que les vraies vedettes ici aujourd'hui, c'est eux, là, c'est pas moi. Mais si je peux aider justement à faire en sorte de faire connaître l'événement, d'inviter les gens à venir participer, à venir regarder, je pense que c'est quelque chose qu'on grandit d'être mm-hmm. là et d'être témoin de ces exploits-là.
Quel est votre rôle au juste comme porte-parole?
Moi, mon rôle, là, c'est invité d'honneur. Donc, c'est comme une intégration à l'événement. Donc, je le découvre. C'est ma deuxième journée. J'apprends à découvrir l'événement, les rouages, rencontrer les participants, les bénévoles. On parle de 1200 bénévoles. C'est pas rien. L'organisation, les partenaires, les commanditaires, là, c'est là que tu prends conscience de l'ampleur du défi Altergo, défi sportif Altergo. Puis, moi, mon implication, c'est d'aider justement à faire en sorte de, je vous dirais, de sensibiliser les gens sur ce que c'est le défi sportif Altergo.
Mm-hmm.
Donc vraiment de faire en sorte d'ouvrir les horizons et de donner un regard sur l'événement. Puis je l'espère beaucoup, d'emmener des gens à participer, à supporter l'événement, parce que je pense que c'est porteur de bonnes valeurs, mm-hmm. c'est porteur de principes. Et en quelque sorte, pour moi, mais l'entraide, si en société on s'entraiderait plus, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui iraient mieux aussi.
Vous donnez assez régulièrement une conférence qui s'intitule « La force du dépassement ». Les athlètes que vous voyez aujourd'hui, je suppose que ça vous inspire énormément?
Énormément. C'est une des raisons pourquoi j'ai accepté. Parce que pour moi, il y avait un aspect aussi curiosité. Puis il y avait cet aspect-là... ce que je mentionne, c'est qu'il y a un côté un peu égoïste, où ce que je me dis, je vais aller chercher quelque chose de l'événement. Et le quelque chose en question, c'est d'aller chercher justement cette motivation, essayer de comprendre qu'est-ce qui les motive, eux, à se dépasser.
Mm-hmm.
Parce que c'est carrément différent de ma perception ou mon implication, moi, ce que j'ai vécu comme athlète, c'est différent dans le sens. Moi, je voulais gagner à tout prix. Puis, en quelque sorte, j'ai évolué. Puis, à la fin, même après avoir gagné, ce que j'ai compris, c'est que le vrai défi, c'est d'être le meilleur de soi-même. Et c'est ça. C'est ça que je vois ici. Mm-hmm. C'est ça dont je suis témoin.
Vos coups de cœur, les épreuves auxquelles vous avez assisté et qui vous ont particulièrement impressionné?
Je vais vous décevoir là-dessus. Mon coup de cœur, c'est l'événement complet. Parce que vous savez, chaque fois que je vais avoir une discipline, c'est une nouvelle discipline que je découvre.
Mm-hmm.
C'est des nouveaux athlètes. Puis je crois qu'ils ne sont pas seulement des athlètes, ce sont des ambassadeurs.
Mm-hmm. Jean-Marie Lapointe nous racontait hier que vous avez même essayé le basketball en fauteuil roulant.
Oui, j'ai essayé, puis je dois dire que je me suis pas impressionné. Les athlètes m'impressionnent. C'est là qu'on voit que des fois, on parle de personnes handicapées, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, avec leur handicap, c'est leur vie normale, c'est leur vie de tous les jours. Donc, ils s'adaptent. Ils trouvent une façon de faire en sorte que ça fonctionne. C'est clair que pour nous, c'est difficile un peu à imaginer lorsqu'on a tous nos sens, lorsqu'on n'a pas un handicap qui nous empêche d'avancer. Par contre, nous, un handicap va être un échec, un handicap va être une perte, puis ça peut nous handicaper. Donc, finalement, c'est là la motivation que tu vas chercher, c'est que tu te rends compte que des fois, tu n'as pas tout ce que tu voudrais avoir, mais tu vas faire avec ce que tu as, puis tu peux être heureux avec ce que tu as aussi.
Mm-hmm. En terminant, M. Girard, si je vous demandais de nous dire où on va, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on peut voir?
Écoutez, vous allez au centre Claude Robillard. Ici, là, c'est l'événement, c'est, je vous dirais, c'est l'endroit là, qui est centralisé pour les mm-hmm. événements. Il y a différents sites où il y a des compétitions en périphérie, mais c'est ici que ça se passe principalement. C'est gratuit. Demain, il va y avoir 2000 personnes, 2000 athlètes qui vont participer. C'est impressionnant. Donc, j'invite vraiment les gens à se déplacer, à venir les encourager, du moins à venir vivre l'événement.
Mm-hmm. Puis, diriez-vous que c'est un bel endroit aussi pour amener ces enfants, question de leur faire constater ce qu'est la différence?
C'est drôle que vous en parliez parce que j'ai eu cette discussion-là ce matin. Je trouve que c'est un endroit où on devrait emmener les écoles dans une sortie pédagogique qui pourrait faire partie d'un travail scolaire. Parce que justement, on parle d'intégration, on parle d'accepter les autres avec leurs différences. C'est un endroit, ça, où je pense que les jeunes... Moi, si mon jeune était, il habite pas avec moi, mais s'il était ici avec moi, je l'emmènerais, c'est certain.
Mm-hmm.
Parce que je veux qu'ils vivent l'événement et qu'ils comprennent que finalement, même si on est différent, on peut accomplir des grandes choses.
Mm-hmm. Bien, M. Girard, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, à vous remercier de nous avoir parlé.
Ça me fait plaisir.
Et je rappelle à nos auditeurs qu'il y a plein d'informations disponibles en ligne à www.defisportif.com. Bonne journée.
Merci.
À Châteauguay, six enfants autistes sont coincés dans une classe sans fenêtre à la grande colère des parents. C'est un texte de Patricia Blackburn sur le site Le Soleil de Châteauguay. Depuis septembre, six enfants autistes passent leur journée dans une classe sans fenêtre de l'école primaire Saint-René à Mercier. Leurs parents furieux réclament des changements, mais la commission scolaire, aux prises avec un manque d'espace, juge le local adéquat pour l'apprentissage. Nicolas, 8 ans, fait partie du groupe attitresse local. Sa mère, Joanne Ponton, ne comprend pas comment une telle décision a pu être prise par la direction de l'école. « Ses enfants vont finir par détester l'école », dit-elle avec émotion. « C'est comme profiter de ceux qui ne peuvent pas se défendre ». Les parents ont revendiqué un changement de classe en se tournant vers la direction de l'école, la commission scolaire, puis le protecteur de l'élève. Mais ces instances ont conclu à tour de rôle que le local était adéquat à l'apprentissage des enfants. Faute d'espace, la commission scolaire n'a pas l'intention de changer ses enfants de local d'ici la fin de l'année en cours. Notre rôle en est un d'éducation et le personnel et les responsables d'éducation ont déterminé que les enfants étaient dans de bonnes conditions d'apprentissage. Dans ce local, a répété en entrevue au journal Marie-Louise Kernes, présidente de la commission scolaire des Grandes Seigneuries. Celle-ci a par ailleurs indiqué qu'il y aurait une rotation des enfants en septembre afin que ceux qui se trouvent actuellement dans la classe sans fenêtre puissent profiter d'un local avec fenêtre, ceci dans l'éventualité où cette quatrième classe spécialisée serait encore nécessaire. Les parents, de leur côté, se sont tournés en désespoir de cause vers l'Office de protection des personnes handicapées. Aux dernières nouvelles, l'Office prévoyait déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Même ces deux experts ont confirmé la thèse des parents, c'est-à-dire que le manque de lumière naturelle pouvait avoir des effets négatifs sur les enfants, la commission scolaire des Grandes Seigneuries maintient sa position et ne compte pas changer les élèves de classe. Dans l'éventualité où l'école n'est pas en mesure de trouver une autre classe pour ses six enfants, un psychiatre recommande même de les faire sortir au moins une demi-heure, deux fois par jour, lors des récréations, et de les faire sortir dehors le plus souvent possible avant et après l'école afin que leur niveau de mélatonine augmente. En studio, on reçoit Patricia Laurence et Antoinette Petit du Phare Enfants Soleil. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, merci.
Bon,
merci.
Parlez-nous un peu de ce qu'est le Phare Enfants Soleil.
Alors, notre mission au Phare, c'est d'offrir aux familles nécessitant des soins palliatifs pédiatriques l'ensemble des services et des soins tout au long de leur vie. Ça permet aussi d'offrir à leurs familles un accompagnement, un répit et un suivi de deuil. En fait, les familles qui viennent au Phare, bien, c'est des familles qui ont un enfant qui est atteint d'une maladie à issue fatale à court, moyen ou long terme. Ces familles-là, en fait, n'ont pas de profil en particulier. Et nous, on dessert un territoire, l'ensemble de la province, en fait. Mm-hmm. Le territoire, c'est ça. Puis, tous les services au Phare sont gratuits également. C'est
okay.
important de savoir.
Et accessible ou il y a quelque chose comme une liste d'attente? Et...
Non, il n'y a pas de liste d'attente. La liste d'attente...
Non, c'est parce que c'est tellement rare dans le réseau de la santé.
Oui, mais c'est vraiment assez rapide. Dans un mois, les familles sont rappelées.
OK. Donc, voilà. Et ça consiste en quoi, des soins palliatifs pédiatriques?
En fait, les soins palliatifs pédiatriques, c'est un continuum de soins. C'est des soins parfois actifs. Des soins, en fait, qui visent non pas le... On ne veut pas guérir les enfants, mais on veut qu'ils soient confortables, qu'ils soient soulagés, qu'ils aient une belle qualité de vie jusqu'au bout, qu'ils puissent s'amuser jusqu'au bout. Parfois, on peut aller jusqu'à faire une chirurgie si cette chirurgie-là va permettre à l'enfant d'avoir une meilleure qualité de vie. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment des soins qui peuvent être très actifs, mais le but est toujours une visée palliative, dans le fond, donc là, qu'on voit la qualité de vie. Mm-hmm.
Préserver du sens et de la qualité.
Exactement.
Voilà. Si je vous demandais, le répit... C'est votre mission principale? Parce que j'imagine assez que pour des parents d'un enfant qui sont aux prises avec une maladie à issue fatale, le drame, en quelque part, c'est qu'ils sont condamnés, eux, à être forts, mm-hmm. beaucoup trop forts,
oui.
beaucoup plus que toute personne le serait dans une situation pareille. Mm-hmm. Alors, cette mission-là de répit, ça consiste en quoi?
Ben, en fait, le répit peut prendre plusieurs aspects. Hein. Il y a le répit quand l'enfant va bien. L'enfant peut venir au Phare, avoir des journées, s'amuser, avoir du plaisir. Puis en même temps, il y a une équipe médicale qui fait partie du Phare. Il y a des infirmières aussi. Mais il y a aussi une éducation spécialisée, de l'animation, zoothérapie, musicothérapie, massothérapie. Donc, il peut profiter de tout ça. Mais il y a aussi d'autres moments où l'enfant peut venir au Phare. Donc, ça peut être pour des soins de transition si l'enfant, par exemple, a une chirurgie à l'hôpital ou des soins particuliers à l'hôpital. Avant de retourner à la maison, il peut venir au Phare avec la famille, puis on peut consolider les enseignements aux parents, dans le fond, puis permettre à l'enfant de se rétablir complètement avant de retourner à la maison. Ça peut être aussi des soins de gestion de symptômes, dans le fond, si l'enfant est un petit peu plus souffrant. Il a besoin d'être un peu plus... une surveillance un peu plus soutenue ou une ajustation de la médication, mais l'enfant peut venir aussi au Phare à ce moment-là. Mm-hmm. Puis il y a aussi les soins de fin de vie, parce que des soins de fin de vie font partie des soins palliatifs aussi. Donc, on peut offrir ça. Puis il y a aussi le suivi de deuil qu'on assure à la famille
avec
par la suite.
Avec les parents.
Avec
parce
les parents,
qu'il faut
la
les
fratrie,
supporter.
Les grands-parents aussi. Mm-hmm. Exactement. Puis la famille est toujours incluse dans tout ça. On s'occupe beaucoup de l'enfant, mais la famille prend une grande place. Et pas juste les parents, mais la fratrie, les grands-parents aussi. Mm-hmm.
Je me tourne vers Mme Laurence. Mme Laurence, et vous avez un événement de financement. Bien, j'allais dire en cours, mais finalement, il est toujours en place.
Oui, effectivement. En fait, on a donc notre campagne de financement grand public qui est Ma fête en cadeau, dont vous faites mention actuellement. Donc, en fait, c'est une campagne qui est offerte, qui est là, qui peut être faite de gens de tous les âges. En fait, tous les gens peuvent participer, peu importe leur âge. C'est une façon de donner un nouveau sens à son anniversaire, en fait. Donc, mm-hmm. le concept est bien simple. C'est qu'on invite les gens à s'inscrire sur mafêteencadeau.com et par la suite, ces gens-là, donc, invitent leur entourage à faire un don au Phare en l'honneur de leur anniversaire. Donc, ça se fait tout simplement comme ça. Et ça permet donc aux gens, aux fêtés, de devenir en quelque sorte ambassadeurs du phare, puisqu'il en parle aux gens à son entourage en demandant des dons pour soutenir la cause du phare.
Et c'est un très, très beau symbole de dire « j'ai un anniversaire de plus, moi ».
Exactement. Et c'est là où, quand on dit donner un nouveau sens à son anniversaire, c'est tout à fait ça. C'est de souligner, en fait, que nous, on a la chance d'avoir plusieurs anniversaires et les enfants qui bénéficient des services du phare ne sont pas aussi privilégiés. Leur anniversaire, disons, le nombre de leur anniversaire est très souvent beaucoup plus restreint que le nôtre. Mm-hmm. Donc, ça nous permet de rejoindre, en fait, tout le monde. Et je vous dirais aussi que parfois, les gens nous posent la question, oui, mais on veut amasser des sous pour le faire avec notre anniversaire. On voudrait faire ça en grand. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petite façon de le faire. Il y a des gens qui ont amassé, même des enfants parfois qui ont choisi d'offrir leur fête en cadeau, qui ont ramassé 50, 60 $, d'autres gens qui ont amassé des centaines de dollars. L'important, ce n'est pas le montant au final, c'est le fait de choisir d'offrir sa fête en cadeau au phare, de soutenir la cause et de devenir, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, ambassadeur pour la cause du phare.
Et si on veut aider le phare, est-ce que vous recrutez des bénévoles, par exemple? Est-ce que d'autres choses qu'on peut faire pour vous?
Oui, en fait, définitivement, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. On a différents volets, dans le fond, en ce qui a trait au bénévolat. Il y a bien sûr le bénévolat auprès des enfants, donc soit à la maison, ou à la maison de soins palliatifs. Donc, des bénévoles qui doivent préalablement avoir suivi une formation de 18 heures qui est offerte par le phare de par la clientèle que nous desservons, bien sûr. On offre aussi du bénévolat à domicile, donc ça va un peu dans le même esprit. On a aussi, on est toujours aussi à la recherche de bénévoles au niveau ce qu'on appellerait administratif. Donc, ça peut comprendre les communications, parfois on a des besoins en graphisme, à l'accueil. Mm-hmm. On a des gens qui peuvent nous donner un coup de main, même pour l'entretien du jardin. Peut aller dans toutes les...
C'est tout à fait adapté pour des gens qui se sentiraient émotivement beaucoup trop impliqués en travaillant directement avec les enfants.
Effectivement, ça peut permettre donc là, d'aller... de soutenir, mais d'une autre façon, si on veut.
En terminant, vos coordonnées, parce que si on veut vous aider, il faut savoir où vous êtes et comment on vous joint.
Ben oui, en fait, pour les gens qui auraient envie de participer à la campagne Ma fête en cadeau, donc on vous invite à visiter mafêteencadeau.com et sur le site, vous avez toutes les informations pour y participer, ainsi que les coordonnées du phare qui s'y trouvent, tout comme sur notre site web aussi, qui est phare-lighthouse.com.
Et tous les services qu'on retrouve au phare.
Vos locaux sont situés?
Nous sommes situés dans le Technopôle Ingus, donc dans Rosemont, mais comme disait Antoinette il y a quelques minutes, nous desservons l'ensemble de la province du Québec, mais la maison de soins palliatifs est située dans Rosemont.
Et c'est important parce qu'on a souvent l'impression que des organismes comme le vôtre sont réservés à la population montréalaise et c'est pas du tout le cas.
Effectivement, c'est ça.
D'autant que si vous offrez effectivement du support à domicile...
Tout à fait, on a du soutien du répit à domicile et on l'offre exactement à l'ensemble de la province.
Alors, Mme Laurence, Mme Petit, je vous remercie, je vous souhaite bonne chance, bonne continuation.
Merci de l'invitation.
Beaucoup.
Merci
beaucoup.
Beaucoup.
En Ontario, on s'interroge actuellement sur, vous savez, le petit panneau qui montre un fauteuil roulant pour dire que c'est réservé aux personnes handicapées. Eh bien, ce petit panneau-là, il n'y a plus la cote. Un nouveau symbole pour les personnes handicapées, ça nous vient de Radio-Canada. Un groupe de militants a demandé à l'Ontario de modifier le symbole utilisé pour indiquer un espace réservé aux personnes handicapées. Le Forward Movement, qui défend les intérêts des gens à mobilité réduite, a organisé un événement dimanche pour promouvoir le symbole dynamique d'accès qui illustre une personne en fauteuil roulant en mouvement. Conçu en 1968, le symbole universel indiquant un espace réservé aux gens handicapés représente une personne assise dans un fauteuil roulant. Toutefois, les personnes handicapées y sont injustement représentées comme dépendantes, passives et sans défense, selon le cofondateur Jonathan Silver. Je ne pense pas que le logo représente l'être humain au-delà de la chaise roulante. Le groupe demande à l'Ontario d'adopter le symbole dynamique d'accès comme signe d'accessibilité officielle. Sur celui-ci, la personne en fauteuil roulant est penchée vers l'avant et se déplace d'elle-même. L'athlète paralympique à la retraite Paul Rosen parraine l'initiative. Le fauteuil roulant n'est pas une condamnation à mort. Ce nouveau logo va changer les attitudes. S'il est adopté, l'Ontario emboîterait le pas aux États de New York et du Connecticut qui exigent que le symbole soit utilisé pour toutes les nouvelles constructions tout en permettant la signalisation existante. Ainsi, le changement ne coûterait pratiquement rien à la province, soutient le groupe. Se faire belle en cas de cécité. Eh oui, ça existe, c'est une vraie question et en France, on s'en occupe actuellement. Un texte d'Aimé Le Goff du site handicap.fr. Accompagnée d'Isis, le chien guide sagement allongé à ses pieds, Manon, aveugle de naissance, se fait appliquer du fond de teint, du blush et de la poudre de soleil. « Votre teint est vraiment votre point fort », lui explique Sophie, esthéticienne attentionnée. Dans le magasin, la jeune femme est venue se faire une beauté sans miroir. À l'occasion d'un atelier organisé par la chaîne cosmétique Yves Rocher, en partenariat avec l'association Handicap Zéro qui lutte pour l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes. L'initiative, déjà lancée en 2013, est mise en place dans 6 villes de France, une par région. À Lyon, le 13 avril 2017, des séances ont lieu toute la journée. Durant tout l'atelier, les participantes sont accompagnées pour prendre conscience de leur visage, des zones à maquiller, des produits à appliquer. L'objectif étant de s'approprier certains gestes pour les reproduire de façon autonome dans la vie de tous les jours. Posez votre doigt et restez bien sur la paupière. Continuez jusqu'au creux. Vous avez déjà mis du rouge à lèvres? Un effet brillant donnera plus de profondeur. C'est joli. Présenter les matières correctement, oraliser toutes les informations, décrire les couleurs et les textures, faire preuve de précision. Pour animer ces séances et prodiguer des bons conseils, les maquilleuses ont bénéficié d'une petite formation. Il est essentiel d'adopter une approche plus tactile et d'être entièrement à l'écoute pour répondre aux attentes de ces femmes qui, dans de nombreux cas, ne sont jamais maquillées ou ne se maquillent plus à cause de leur cécité. Explique Stéphanie Vieillefaux de Handicap Zéro. Et voilà qui conclut notre bulletin de ce mardi 25 avril 2017. Je m'en voudrais de terminer sans remercier Christiane Campagna et Sylvie Rivard à la recherche, Rémi Hermoso à la mise en onde, nos invités en studio, Mme Petit, Mme Laurence. Merci, à demain.